Au quotidien, avec Hélène Denis.
C'est mardi 16 septembre 2025. Comment allez-vous? Et devant moi, non, ce n'est pas Mathieu Tessier ce matin, mais bien Samuel Badel. Ça fait longtemps, Samuel.
Oui, ça va bien. Ben, très bien.
Oui, vous étreignez vos souliers de course parce que vous faites la mise en onde ce matin.
C'est ça.
Bien oui, vous courez, vous, en plus de faire du vélo.
Ah oui, là, ça fait peut-être 4-5 mois que vraiment je me suis mis à ça et j'adore ça.
Ah oui?
J'ai du mal à m'en passer.
C'est vraiment une tendance lourde là, depuis quand même quelques années, là, cette mode du jogging.
Ouais.
Moi, je marche, je fais de la marche rapide, mais de courir, là, est-ce que ça a été difficile au début pour vous?
Au début, c'était compliqué, oui. Puis en fait, dès que le corps s'habitue, là, on peut faire ça 2-3 fois par semaine sans problème.
Puis à un moment donné, on attrape, je sais pas comment on appelle ce phénomène.
Il y a une vraie addiction au bout d'un certain temps.
Oui, mais cette sensation de bien-être quand on court.
Ah oui, les endorphines à la fin de la séance sont... Oui.
Ah, c'est à la fin?
Oui.
OK, je pensais que c'était genre au milieu, on pouvait plus s'arrêter de courir, là, comme Forrest Gump. Alors moi, j'ai l'impression d'être en plein mois d'août. Là. J'ai mangé du maïs et des fraises hier et tout était délicieux. Je me disais, le maïs doit être avancé, mais il est encore sucré et tendre. Je ne sais pas si vous êtes un amateur, Samuel, de maïs.
Non, pas vraiment.
Non!
J'avoue.
Pourquoi?
Je ne sais pas, je ne suis pas fan du goût.
OK, aimez-vous les fraises?
Oui, c'est vrai.
Alors, sur ces notes estivales, je vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 11 heures et puis aujourd'hui... Pardon, j'aurai le grand plaisir et même l'honneur de parler avec Annie Desrochers, que vous connaissez sans doute, une animatrice radio qui est à Radio-Canada depuis plusieurs décennies. Et récemment, elle a lancé la BD Transmission. Donc, c'est elle qui a écrit la BD. Ça vient d'un projet balado sur la baie James. Et la BD est dessinée par l'extraordinaire Christian Quesnel. J'aurai donc la chance de m'entretenir avec Annie Desrochers dans les prochaines minutes. Aussi, la chronique livre en compagnie de Anne-Marie Aubin, qui va nous présenter 3 livres qui traitent de difficultés d'apprentissage. Nous aurons aussi, comme à tous les mardis, la chronique économie en compagnie de Michel Poitevin. Et on y va tout de suite avec une première chanson pour ouvrir cette émission, « L'été ne reste pas » de Flore.
Des photos de bord de mer en 1000 morceaux. Des sur ma j'avoue, ça fait longtemps que je songe à ton absence.
présenter L'été ne reste pas de Flore.
Merci Samuel. À la une de la presse plus, décès de sans-abri, record tragique. C'est un dossier de Caroline Touzin. Une tempête parfaite, record tragique. Au moins 108 personnes sont mortes en situation d'itinérance en 2024 au Québec, selon des données obtenues par la presse auprès du bureau du coroner. Il s'agit d'une hausse marquée puisque 88 décès de sans-abri ont été recensés en 2023, comparativement à une vingtaine par année de 2019 à 2021. Environ la moitié d'entre eux sont morts d'une surdose accidentelle selon notre analyse des 108 rapports de 2024. Parmi eux, des jeunes dans la vingtaine avec la vie devant eux, comme Rosalie Lelièvre Cadet. C'était le rayon de soleil d'Haïti de sa mère Colette Lelièvre. Elle est décédée d'une surdose. On compte aussi des décès par hypothermie, un coup de chaleur, des suicides et des noyades dans un contexte d'intoxication, entre autres. Plusieurs sont morts dans l'espace public, sur un trottoir ou dans un campement urbain, parfois retrouvés des heures, voire des jours après avoir rendu leur dernier souffle. Certaines enquêtes sont toujours en cours, précise un porte-parole du bureau du coroner. Le chiffre de 108 est donc conservateur. La majorité de ces drames ont eu lieu à Montréal, mais l'enjeu n'est pas propre à la métropole. Des sans-abri sont morts dans 19 villes de la province, selon notre compilation. Crise du logement, drogue contaminée, dégradation du filet social, on assiste à une tempête parfaite au Québec qui pourrait expliquer cette hausse des décès, observe la docteure Sarah Larné, professeure au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche du CHUM. Le fentanyl et les nouveaux opioïdes de synthèse contiennent souvent des contaminants, comme des benzodiazépines puissantes, surnommées « benzo » dans la rue, qui augmentent ou imitent les effets de la substance consommée, explique-t-elle. Cette combinaison la préoccupe particulièrement. « Je ne crois pas que la stratégie adoptée par l'État a changé quoi que ce soit sur le terrain, car elle ne s'attaque pas aux racines du problème, la pauvreté, l'inégalité des revenus et l'inégalité des revenus et la crise du logement », dit la docteure Sarah Larné. Aussi, à la une de la presse plus, la mère croyait que sa fille était possédée, la mère de la fillette de La Salle qui avait été abandonnée sur le bord de l'autoroute en juin dernier, a été déclarée non criminellement responsable de ses actes pour cause de troubles mentaux. À la une du Devoir, on voit Poilievre et Carney. Premier duel, Poilievre-Carney aux communes, alors que les élus sont retournés lundi à la Chambre des communes. La camaraderie a rapidement laissé sa place au chahut et aux accusations partisanes lors du tout premier échange au Parlement entre le chef conservateur Pierre Poilievre et le premier ministre libéral Mark Carney. Essai, et si manger végétalien était aussi un geste féministe? Magdalene Boutros, qui écrit l'article, zoome sur deux livres établissant un lien entre féminisme et végétalisme. Le féminisme et le végétalisme combattent-ils les mêmes chaînes d'oppression? C'est la thèse développée par l'autrice et chercheuse états-unienne Carol J. Adams dans son livre culte « La politique sexuelle de la viande », dont une version française vient d'être publiée au Québec, et vulgarisée par l'autrice et avocate québécoise Suzanne Zakour dans son essai « Pourquoi Trump ne mange pas de tofu ?» Et un autre titre à la une du Devoir en éducation, cette fois « Activité et soutien, écope dans les écoles ». L'ancien ministre de l'Éducation a beau avoir réinvesti partiellement en éducation cet été, des centres de services scolaires ont tout de même dû inclure dans leur budget, qu'ils adoptent ces jours-ci, des coupes dans plusieurs de leurs dépenses. Parmi celles-ci, on compte le soutien aux enseignants, l'entretien des écoles, de même que les activités sportives et culturelles destinées aux élèves, a constaté le Devoir. Et pour ce qui concerne la une du Journal de Montréal, j'y reviendrai dans la prochaine demi-heure. Pour tout de suite, on passe à la musique. Belle musique instrumentale de la formation Solastalgie. On vous offre Montmorency et tout de suite après, on cause avec Annie Desrochers de la BD Transmission. Thank you. Pendant qu'on essaie de joindre Annie Desrochers, eh bien, je vais continuer avec cette fois la une du Journal de Montréal que je vous avais annoncée pour la prochaine demi-heure. L'huissier se trompe, son auto saisie et vendue par erreur. Une histoire abracadabrante. Une firme d'huissiers de justice a erronément saisi puis vendu la voiture d'une dame de 74 ans avant de la lui rendre 5 jours plus tard, laissant la septuagénaire de la Montérégie marqué par un stress immense et une impression d'avoir eu affaire à un véritable cow-boy. J'ai été 3 jours sans manger. C'est pas humain de me faire vivre ça à l'âge que j'ai, déplore Daniel Redmond, qui se remet à peine d'un cancer du sein. Malgré son âge respectable, la veuve de Saint-Zotique est dotée d'une fougue et d'une débrouillardise sans égale, écrit Frédéric Giguère dans le journal. Lundi dernier, celle qui vit dans une résidence pour personnes âgées a reçu un appel d'une connaissance avec qui elle s'était entendue pour stationner sa précieuse Subaru sur sa propriété à Vaudreuil-Dorion. Son cadeau de retraite qu'elle a fièrement payé en entier après avoir conduit des autocars pendant près de 35 ans. « Je dois pas une scène à personne, moi », assure-t-elle. Au bout du fil, la connaissance de Mme Redmond lui sommait de s'en venir rapidement puisqu'un huissier menaçait de partir avec sa Subaru. Ce dernier exécutait un jugement pour une créance d'à peine 4 000 $ qui visait la propriétaire du terrain où Mme Redmond se stationnait. J'ai fait du plus vite que j'ai pu, mais lorsque je suis arrivée, mon véhicule n'y était plus, raconte-t-elle. Des démarches ont été faites auprès de la Sûreté du Québec, mais celle-ci se serait montrée peu aidante. Après plusieurs démarches, Mme Renemond est parvenue à obtenir le nom de l'huissier en question. Lorsqu'elle l'a eu au téléphone, ce dernier aurait refusé de lui remettre son véhicule. Elle a donc mandaté un avocat qui a envoyé une mise en demeure. Désespérée et anxieuse, elle a fini par contacter le journal dans le but d'avoir de l'aide. Curieusement, quelques heures à peine après nos démarches, Mme Renemond recevait la confirmation que son véhicule, qui avait déjà été vendu à un concessionnaire de Laval, lui serait restitué. Je me sentais comme dans le Far West. Voler un véhicule comme ça, ça prend vraiment un cow-boy pour faire ça. C'est un grand manque de professionnalisme. C'est facile à vérifier à qui un véhicule appartient pourtant. Vendredi, Mme Renemond a demandé à ce que sa Subaru soit livrée au concessionnaire où elle l'a achetée à Dorval afin qu'une inspection mécanique soit faite. Même si elle n'a rien à voir dans cette histoire, la septuagénaire a déboursé une importante somme d'argent afin de récupérer sa voiture, notamment en frais d'avocat et de mécanicien. La femme de 74 ans songe à entamer des démarches judiciaires afin d'être remboursée. Et juste à côté, on écrit que c'est pas de la faute de l'huissier, allègue son employeur. La firme d'huissier à l'origine de la saisie du véhicule de la septuagénaire refuse d'assumer toute responsabilité et blâme plutôt un manque d'outils pour faire les vérifications nécessaires. Lorsque contacté par le journal, l'huissier qui a erronément saisi le véhicule de Daniel Renemond a répété qu'il ne pouvait pas commenter de cas spécifiques. Frédéric Gendron de la firme CBL Huissier a toutefois indiqué que la seule façon pour lui de déterminer qui était le propriétaire d'un véhicule était une vérification au registre des droits personnels et réels mobiliers. Une plateforme publique permettant de savoir si un bien a été donné en garantie ou s'il est financé. Or, comme le véhicule de Mme Renemond avait été payé en entier, il ne figurait pas au registre et malgré l'absence d'informations sur le propriétaire, on a alors tout bonnement saisi sa Subaru.
L'appel du large, fébrile de prendre les rames, de me laisser sur rivage. Est-ce que tu te souviendras comment j'ai mené la barque pour nous deux? Parfait, meublé à rabais, mais rien dans le cœur manquait. Si tu reviens à l'envers de ton tour de la terre, je te relèverai.
Et on écoutait à l'instant Karine Lagueux, L'appel du large.
Quelques nouvelles. La majorité des quelques 2000 externes en médecine se sont retrouvés sans stage lundi, au premier jour de la grève d'enseignement des médecins spécialistes du Québec. Une situation qui alimente l'inquiétude dans les facultés, plusieurs étudiants redoutant des retards dans leur diplomation. On est vraiment dans l'incertitude, c'est quelque chose qui est très anxiogène pour moi et mes collègues. On ne sait pas combien de temps ça va durer, affirme Gabrielle Mercier, étudiante en quatrième année à l'Université McGill. À 26 ans, elle est en externat, une période de stage intensif à temps plein qui s'étale sur environ 2 ans. Lancée officiellement lundi, la grève vise à faire reculer le gouvernement Legault, sur le projet de loi 106 qui prévoit de lier une partie de la rémunération des médecins spécialistes à des cibles de performance. Les moyens de pression de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui ne touche pas les résidents pour l'instant, seront en place jusqu'à une entente de principe sur leur contrat de travail, avertit-elle. Quelque chose de plus léger ici, le roi Giuseppe, restaurant inventeur de la poutine, est racheté par Ashton. Le restaurant Le Roi Giuseppe à Drummondville rejoint la grande famille Ashton. Les amateurs peuvent toutefois dormir tranquilles. Pas question de changer la recette ni l'identité de ce commerce qui se présente comme l'inventeur de la poutine. Ça ne deviendra pas un Ashton. C'est important que ce soit clair, a écrit lundi matin sur Facebook le propriétaire du Roi Giuseppe, Laurent Prou. Il précise par ailleurs que tous les emplois, sauf le sien, seront préservés. M. Prou mentionne une belle transaction paisible et amicale qui fait dorénavant passer le commerce ouvert en 1956 sous l'égide du groupe Ashton, une chaîne de restauration québécoise à la réputation impeccable. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué. Une autre mort, une légende, Robert Redford, icône du cinéma américain des 6 dernières décennies, est mort mardi, aujourd'hui en Utah, à l'âge de 89 ans, selon le New York Times et d'autres médias américains. On y reviendra assurément et on écoutera aussi une chanson qui nous fait penser à Robert Redford, interprétée par la grande voix de Barbara Streisand. Merci d'écouter Au quotidien. C'est Hélène Denis qui vous accompagne jusqu'à 11 heures. Et puis à venir en musique, nous aurons les 100 prochaines années par Albin de la Simone et la chronique Économie en compagnie de Michel Potvin. Restez avec nous.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Je suis père et fils, et je fus mari, années 70 avant Jésus-Christ. Je reviens de loin, à travers le temps, j'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma peau me ment, c'est une patine, c'est un ornement. J'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant.
qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Les 100 prochaines années, et après on voit. J'ai lu dans nos mains l'avenir qui brille de beaux lendemains, roulement à billes. Je tiens la calèche, qu'il vente ou qu'il pleuve, une rose fraîche entre mes dents neuves. Plongeons saut de l'ange du haut d'un rocher dans le ciel orange, je t'ai vu m'aimer. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Les 100 prochaines.
C'était Albin de la Simone, les 100 prochaines années.
Et c'est l'heure de la chronique économie avec Michel Poitvin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Plusieurs personnes attendent avec impatience même la décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt. Ça va se passer demain.
Oui, demain la Banque va faire une nouvelle décision de son taux directeur. Le taux d'intérêt ou le taux directeur a de l'impact pour beaucoup de gens, là. Par exemple, ceux qui songent à prendre un prêt à la consommation ou un nouveau prêt automobile, bien, le taux directeur, s'il baisse un peu, ça devrait baisser le taux d'intérêt que vous allez payer sur votre prêt. Les nouvelles hypothèques également pourraient voir une baisse de leur taux. Puis ceux qui ont des hypothèques à taux variable, bien, le taux variable est relié au taux directeur. Donc, à chaque fois que le taux directeur baisse, il y a une baisse du taux payé sur l'hypothèque. Diminution des paiements hypothécaires dans ce cas-là.
À quoi donc on peut s'attendre?
Comme on en a parlé plusieurs fois, là, la situation économique est difficile à lire, là, même pour les gens de la banque. De plus en plus, on a des signes que l'économie ralentit. Au mois d'août, le chômage a augmenté à 7,1 %, là, ce qui est quand même relativement élevé. On a déjà connu des périodes où le chômage était beaucoup plus élevé, mais aussi d'autres où c'était plus faible. Puis ce qui inquiète un peu aussi, c'est la tendance, là. Puis de toute évidence, les tarifs jouent de ce côté-là. Là, l'emploi dans les secteurs qui exportent plus est fragilisé. Puis au deuxième trimestre, le deuxième trimestre, ce sont les mois d'avril à juin, l'économie canadienne, je ne suis pas sûr qu'on en avait parlé en chronique, là, mais l'économie canadienne s'était contractée de 1,6 %. Donc, ça, ce qui veut dire que la valeur de tout ce qu'on produit au Canada a baissé de 1,6 %. Habituellement, il y a toujours une petite hausse, il y a de la croissance dans l'économie, donc on fait de toujours de un peu plus, mais là, c'est une baisse de 1,6 %, alors qu'au premier trimestre, on avait eu une hausse de 2 %. C'était dû en grande partie aux exportations vers les États-Unis qui avaient baissé. Donc, on produit moins si on exporte moins. Puis aussi, une diminution des investissements des entreprises. Puis les entreprises sont dans un climat toujours relié au climat tarifaire, là. Donc, sont dans un environnement très incertain. Puis, c'est possible que plusieurs d'entre elles mettent un frein à l'investissement puis attendent de voir qu'est-ce qui va se passer, là. Donc, si on avait une contraction au troisième trimestre, on a eu une, par contraction, on veut dire que l'économie rétrécit, ce qu'on a eu, comme je le disais, par un montant de 1,6% au deuxième trimestre. Si on avait la même chose au troisième trimestre, une nouvelle contraction, bien, c'est ce qu'on appelle une récession. Une récession, c'est lorsqu'on a deux trimestres consécutifs où l'économie diminue ou se contracte. Alors, ça va être à suivre, là, le troisième trimestre. Bon, il n'est pas terminé. Il se finit avec la fin septembre. Donc, en quelque part, en octobre, on va avoir une nouvelle annonce de savoir ce qui est arrivé avec le PIB, là, la taille de l'économie canadienne. Mais tout ça, ça joue là, pour savoir est-ce qu'on devrait baisser ou pas les taux d'intérêt. Les tarifs sont toujours présents. Là. Les États-Unis nous ont imposé des tarifs. Mais ce qu'il faut dire sur les tarifs, c'est que ça augmente quand on impose un tarif. Supposons que le tarif passe de, je sais pas moi, 10 % à 30 % Mais ça fait augmenter les prix, mais juste une fois. Là. Une fois que le tarif a augmenté, le prix augmente, mais ça ne génère pas nécessairement de l'inflation dans le long terme. Là. C'est une hausse qui est ponctuelle. Donc là, ça joue en ce moment, mais ce n'est pas gage que ça crée de nouvelles hausses dans le futur, à moins que le taux de tarif lui-même augmente plus tard. Mais il y a quand même de l'incertitude autour de ça. Donc on voit l'économie, là, la situation n'est pas rose-rose. Et par contre, l'inflation a augmenté légèrement au mois d'août. On est passé en juillet, on était à 1,7%, on a augmenté à 1,9%. Donc, légère hausse de l'inflation. Mais si on exclut l'essence, l'inflation est à 2,4% parce que le prix de l'essence a baissé. Donc, sans l'essence, l'inflation est plus élevée à 2,4%. Mais les trois mois avant, est à 2,5%. Donc, cette espèce d'inflation-là, sans coût de l'énergie, là, sans l'essence, a baissé un petit peu d'un dixième de pourcent. Là. Mais on est tout près de la cible de la Banque du Canada là, avec le 1,9 sur l'inflation générale là, de la cible de 2%. Mm-hmm. Donc, la plupart des experts avec ça s'entendent pour que demain, la Banque du Canada décide de baisser le taux d'intérêt. Là. Le marché de l'emploi faiblit. L'inflation semble n'est certainement pas galopante. Il y en a un peu, là, mais c'est rien de trop inquiétant. Donc, on s'attend à ce que le taux passe de 2,75 à 2,5, une baisse. Puis, il y en a même qui disent que probablement la décision d'octobre, là, il va y avoir une nouvelle décision de la Banque du Canada au mois d'octobre, il y a une nouvelle baisse à 2,25%. Donc, on est tout près là, du taux d'intérêt qu'on appelle neutre. Là. Il n'est pas suffisamment bas pour trop stimuler l'économie, puis en même temps, il n'est pas trop haut pour restreindre la croissance de l'économie. Donc, autour de 2,5-2,25 %, là, c'est un taux qu'on appelle neutre.
Ça okay. veut dire que... Et puis, Michel, les États-Unis attendent aussi une décision de leur banque centrale.
Ben oui, cette semaine, c'est un peu hasard, mais cette semaine, la Banque fédérale américaine va annoncer son taux directeur. Ça va être intéressant à suivre là-bas, mais pour d'autres raisons qu'ici, là, qui sont notamment plus politiques. Depuis plusieurs mois, le président Trump met beaucoup de pression sur Jerome Powell, qui est le directeur de la Banque fédérale, pour baisser les taux. Et puis, pourquoi Trump veut que les taux baissent? Bien, ça stimulerait l'économie et ça l'aiderait pour ses élections de mi-mandat. Là. Les Américains verraient leur hypothèque coûter moins cher, etc. Mais le président de la Fed, lui, ses considérations, c'est pas politique, mais c'est d'être sûr que l'inflation est subjuguée. Mais le marché de l'emploi, un peu comme au Canada, montre des signes un peu d'essoufflement. Au mois d'août, on a créé 22 000 emplois, ce qui n'est pas beaucoup. Ça semble un gros chiffre, mais pour l'économie américaine, c'est pas beaucoup, 22 000 nouveaux emplois. En juillet, il y en avait eu 79 000, puis même ça, c'était pas très élevé là, relativement à leur économie, qui est à peu près 10 fois la taille de l'économie canadienne. C'est comme si on dit au Canada, on a créé 2 000 emplois. C'est pas énorme, non. Énorme pour tout le pays.
C'est mieux que rien, là. Mais c'est minuscule.
C'est ça, on a mieux de la création que des pertes d'emploi, mais
évidemment.
C'est pas tant que ça. Puis le taux de chômage a augmenté légèrement aux États-Unis de 4,2 à 4,3%. Donc tout ça fait dire aux experts, ben, ça se peut qu'il y ait une petite baisse là, de 0,25%, ce qui amènerait le taux d'intérêt là-bas dans une fourchette de 4 à 4,25%, là, ce qui est quand même plus élevé qu'au Canada. Nous, s'il y avait une baisse, on serait à 2,5%, donc c'est 1,5% plus élevé que le taux au Canada. Mais peu importe la décision que le pauvre M. Powell va prendre, j'ai l'impression que président Trump ne sera pas content. Il va, même s'il y a une baisse, il va dire qu'elle n'est pas assez importante et tout.
Ouais. Donc, on est habitué à son visage non souriant. Ben, Michel, merci beaucoup pour cette chronique. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
L'animatrice radio Annie Desrochers est au bout du fil. Bonjour Annie Desrochers.
Bonjour Hélène.
Ça me fait bien plaisir de vous parler, moi qui vous suis depuis des décennies, parce que vous êtes une femme de radio accomplie.
J'ai commencé très jeune.
Oui, je sais. Je vous ai entendu récemment dans une entrevue. Je pense que vous avez commencé à 16 ans.
Oh, ben, autour de la majorité, oui.
Mais vous êtes à Radio-Canada depuis combien de décennies?
Ben en fait, je commençais tranquillement, pas vite là.
Ouais.
C'était le propre de notre génération. Je pense que les jeunes aujourd'hui pourraient dire la même chose, de contrat en contrat. Mais quand je suis arrivée à Montréal, c'était en 1995, à peu près. Okay. 96, oui.
Oui, oui, oui. Ça a commencé en Allemagne, toute cette belle expérience radio.
Au début des années 90, oui.
Alors, Annie, je suis contente de vous parler. On va parler de radio peut-être, mais c'est surtout votre projet balado, mais encore plus le projet BD issu du projet balado. Mais racontez-nous l'origine de votre projet. Là. Pourquoi cet intérêt aussi? Parce que je n'ai pas présenté la BD, c'est Transmission, les héritages de l'abbé James. Alors, l'origine de votre projet, puis d'où ça vient cet intérêt pour l'abbé James?
En fait, c'est vraiment un intérêt personnel parce que mon grand-père, à moi, a été un conseiller politique du premier ministre Robert Bourassa, le premier ministre libéral élu en 1970. Et un des grands projets de Robert Bourassa, c'était la construction des grands barrages, le développement de la baie James, cette région très, très au nord.
Après avoir promis 100 000 emplois.
Exactement, exactement. Et il a comme confié, si on veut, l'espèce de coordination de l'émergence de ce projet-là à mon grand-père. Et mon grand-père, à moi, s'est enlevé la vie quand j'étais enfant. Alors, je l'ai très, très peu connu, mais j'étais toujours très au courant de sa vie publique. Vraiment très intense. Et dans ma relation avec mes parents, tu sais, quand il y a des drames comme ça qui touchent les familles, ça devient un peu tabou. On est enfant, c'est délicat, on pose pas trop de questions sur tout ça.
Mais il y a un éléphant dans la pièce.
Oui, exactement, exactement. Mais j'avais quand même la curiosité de sa vie publique aussi, de savoir qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce que c'était ces projets-là, pourquoi il s'est engagé à ce point-là, au point de tout consacrer à son travail. Mon père me parlait de son père comme un homme très distant. Il avait l'impression de peu le connaître aussi. Je pense que c'était le propre des hommes de cette génération-là. Bref, moi, je grandis un petit peu là-dedans. Et à l'âge adulte, j'ai toujours eu envie d'aller voir ça, la baie James, de rouler le territoire québécois. Puis j'ai comme cette espèce de fascination pour le Nord aussi. Et c'est quelque chose dans la vie de tous les jours qui ne peut pas se faire comme sur une pinote.
Non, non, c'est sûr.
C'est un voyage qui s'organise. J'ai eu beaucoup d'enfants. Puis partir tout petit avec des enfants tout petits là-bas, ça n'a pas été possible. Mais à un moment donné, il y a eu comme un alignement de planètes et j'ai planifié de faire ce voyage-là avec mes trois fils les plus vieux. Et j'avais pas du tout l'idée de documenter ça, d'en faire une bande dessinée ou un projet balado pour la radio. Puis c'est un de mes patrons ici à Radio-Canada qu'on rencontre là avant les vacances pour revenir sur la saison et tout. Et il me dit « Qu'est-ce que tu fais cet été? » Je lui raconte ce projet-là. Il dit « Écoute, tu devrais apporter un micro pour documenter ça. » Ma première réaction, c'était « Voyons donc, je suis en vacances, j'irai pas faire du travail comme ça. »
Donnez-moi une pause, s'il vous plaît.
Oui, exact. Mais l'idée me travaillait, puis j'en parlais aux garçons aussi, puis j'ai dit « Ben, OK, on va apporter un micro, puis on enregistrons ce qu'on peut, puis on verra ce qu'on fait avec ça. » Et de là est sorti le balado. Et ensuite, j'ai eu cette idée de l'adapter en bande dessinée parce que je trouvais que c'était un médium qui pouvait continuer à faire vivre cette histoire-là.
Alors, le voyage s'est fait en 2017. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce voyage-là avec trois de vos enfants, avec vos trois plus vieux?
Parce que le faire seul, c'est comme, c'est beaucoup de route. Moi, je suis bien avec mes enfants. Puis assez rapidement, je me disais de faire ça avec mes fils les plus vieux, je vais aussi leur faire vivre une certaine aventure. Tu sais. C'est ça qui m'a donné l'idée de les amener avec. Au début, je voulais partir juste avec les deux plus vieux parce que c'est beaucoup de route là quand même.
Combien de kilomètres?
Oui, c'est ça. Puis mon fils Albert, lui, voyant ses deux grands frères, c'était difficile de lui dire non. Donc on est parti à trois et ça rendait là tout de suite, tu sais, dans notre histoire familiale, c'était quelque chose de, c'était une belle aventure qu'on vivre en famille, oui.
Alors, il y avait Éloi, Ulysse, Albert et les deux autres, comment ils ont appris ça, comment ils ont pris ça lorsque vous avez dit, vous allez rester à la maison, là?
Bien, en fait, ils étaient très petits, hein, puis ils étaient avec leur père aussi, donc je pense que pour eux, la question s'est pas posée. Ma fille ne se voyait pas faire 16 heures de route, puis leur père est pas quelqu'un qui est très attiré par le nord ou les grands espaces, donc puis de partir comme ça, toute la famille, ça devenait, c'était trop complexe, c'est comme ça, on est parti. Ceux qui avaient envie de vivre l'aventure, puis voilà comment c'est arrivé.
Oui, et les petits derniers, vous les avez quand même amenés auprès de Christian Quesnel, qui a dessiné, illustré votre BD Transmission, Les héritages de la Baie James. Comment c'est arrivé? Je pense que c'est vous qui ne l'avez pas approché lui, mais la maison d'édition pour laquelle il avait déjà travaillé.
Oui, c'est ça, parce que moi, je viens pas du tout du monde littéraire. La bande dessinée, j'apprécie ça, mais j'ai zéro repère là-dedans. C'est pas mon métier. Donc, au moment où j'ai cette idée-là de l'adapter en bande dessinée, était publié Mégantic, Un train dans la nuit, chez Éco-Société, et je trouvais que c'était un bel objet quand même. Et je me suis dit, peut-être qu'Éco-Société serait intéressée par un projet comme ça. Donc, je les ai contacté. Mais c'est étrange parce que à ce moment-là, je disais pas « Ah, c'est Christian Quesnel que je veux comme illustrateur. » C'est comme si je le trouvais complètement inaccessible. C'est un peu le sentiment de se dire « Ah, il vient de publier ça, il voudra pas s'intéresser à mon truc. » Mais il y a eu comme cette espèce d'alignement de planète, Éco-Société, à un lancement de Mégantic, se met à dire, on a eu un projet sur la baie James et Christian, ça tombe pas dans l'oreille d'un sot. Alors moi, j'ai toujours voulu illustrer les paysages du Nord. Je m'intéresse à l'histoire du Québec aussi. Donc, quand la maison d'édition m'a dit, peut-être que Christian Quesnel, qu'est-ce que tu penses de travailler avec lui? Oh mon Dieu, j'étais ravie.
Ah, oui.
Mais d'abord, il fallait se rencontrer pour voir si c'était pour cliquer nous deux.
Absolument,
moi,
oui.
Moi, très important que ça se passe bien là, dans les relations interpersonnelles quand on travaille sur un projet comme ça et de son côté aussi, bien sûr. Donc, on a eu une rencontre, puis après, on s'est dit, ça y est, on peut travailler ensemble, puis allons-y.
Donc, est-ce que vous lui avez donné carte blanche une fois que vous vous êtes entendu là, sur le projet?
Bien, les étapes, avant notre première rencontre, je lui avais dit, écoute le balado. Comme ça, tu vas voir si tu y colles des images.
Vous lui avez pas demandé d'aller à la baie James, mais il est allé.
Oui, il est allé ensuite, c'est ça. Puis là, après ça, quand il a dit oui, moi, je pense que ça peut le faire, la première étape, c'était de tirer un texte. Moi, j'étais comme étonnée. J'avais aucun repère de comment ça fonctionne. J'ai dit, oh mon Dieu, faire un texte, mais qu'est-ce que c'est que ça, cette affaire-là?
Ouais.
Donc, je me suis assise avec les verbatim du balado parce que la bande dessinée est très proche du balado. C'est pas une histoire qui a été réécrite, là.
Mm-hmm.
Et de là, j'ai essayé d'extirper un texte. Et ce texte-là n'avait pas d'image nécessairement parce que lui, il dit, je vais travailler à partir de ton texte. Et quand j'ai soumis le texte aux éditeurs puis à Christian, je le trouvais tellement vide. Tu sais, il n'y avait plus de son, plus d'émotion. Moi, le son, c'est un langage que je maîtrise bien. Là, je me disais, mais c'est flat, cette affaire-là. Puis, quand Christian m'a envoyé les premières planches, j'ai dit, ah oui, d'accord, OK, je comprends.
C'était plat.
Ça va fonctionner. Ça va marcher.
Et Annie Desrochers, vous avez passé combien de temps dans le Nord et qu'est-ce que vous avez découvert en allant sur le terrain?
En fait, le voyage, c'était comme sur une semaine, en fait. Et c'était aussi, bien sûr, de se renseigner beaucoup avant, des lectures que j'ai faites sur l'histoire du gouvernement libéral, l'aspect du travail de mon grand-père aussi. Il y a des livres qui ont raconté ça. Je suis allée rencontrer un autre conseiller politique de l'époque, Jean-Claude Rivet, qui avait bien connu mon grand-père. Et puis ensuite, c'est de se trouver des contacts dans le Nord, bien sûr. Quelles sont les clés qui vont nous ouvrir une partie des portes de ce territoire-là. Mmh. Donc, moi, je suis tombée sur quelqu'un comme Sylvain Paquin qui habite à la Baie-James depuis des décennies, qui vit un peu là-bas...
comme un ermite.
Comme un coureur des bois, vraiment. Et Sylvain a réussi à me donner quelques contacts à Chisasibi, puis c'est vraiment lui qui dit, il faut que tu ailles là en premier, tu sais. Puis là, je trouvais, moi, ça avait tout un sens de dire... Quand on arrivera dans le Nord, ben notre premier arrêt, ce sera pas le barrage, ce sera d'aller chez ces gens-là qui habitent le territoire qu'ils connaissent depuis des siècles et des siècles et des siècles. Et ça, c'est pas simple. Hein? On parle de deux solitudes au Canada, mais avec les Premières Nations, on ignore tellement leur histoire. Et pour moi, ça a été une vraie belle découverte de voir comment. Puis un grand privilège d'avoir rencontré un cri comme Roger Orr qui apparaît dans la bande dessinée, qui nous a vraiment raconté l'impact que ça a eu sur lui, sur sa communauté, ces grands travaux-là. La perspective là, à toute cette histoire-là prend une autre dimension, vraiment.
L'héritage dont vous parlez dans Transmission, c'est pas juste un legs politique.
Non, c'est pour ça qu'on l'a mis au pluriel. Je trouvais que l'éditeur avait été assez habile en insistant là-dessus, les héritages de la Baie-James. Et en fait, ce sont des transmissions aussi. Il y a plusieurs couches à cette histoire-là, c'est-à-dire le legs de mon grand-père. Moi, je viens d'une lignée qui s'appelle les Desrochers, puis essayer de comprendre ça. Ce que je laisse à mes enfants, bien sûr, aussi. Les discussions que j'ai eues avec mon père, bien sûr. Mais d'un autre côté, c'est les héritages. Qu'est-ce que ça a laissé comme trace pour la communauté crie? Qu'est-ce que ça a laissé comme trace dans l'histoire du Québec aussi? Donc, c'est pour ça que ça, il y a toutes sortes de facettes à cette histoire-là.
Si votre grand-père, Paul Desrochers, revenait sur Terre, qu'est-ce que vous lui diriez?
J'aimerais vraiment avoir son point de vue là-dessus. C'est un homme qui était qui n'aimait pas être sous les feux de la rampe. Il a accordé très, très peu d'entrevues. Hein. C'était vraiment une espèce de conseiller. Quand on parle d'éminence grise, là, mm-hmm. c'était tout à fait ça. Donc, puis en plus, il a laissé très peu de traces même écrites. Malheureusement, au Québec, on a un peu cette habitude-là de pas avoir conscience des archives, de ce qu'on laisse. Puis je me souviens puis en plus, la façon dont mon grand-père est décédé, ça a été une tragédie dans notre famille. C'est sûr que c'est quelque chose de très souffrant, très douloureux pour ma grand-mère au premier titre. Donc, elle avait dit qu'elle, tu sais, ses papiers, elle s'en était débarrassée, tu sais, puis là-dedans, je me disais, il y avait peut-être les clés d'un secret et tout. Donc, c'est sûr que j'aimerais avoir une conversation avec lui parce qu'il y a des réponses que j'aurais pas. J'essaie de construire ce qui le motivait, mais ce serait, tu sais, juste une conversation face à face qui permettrait de le faire. Donc, oui, il y a une transmission qui s'est brisée, c'est sûr.
Mais il y a une transmission qui s'est brisée, puis il y en a une autre qui s'est créée aussi à travers ce voyage-là avec vos enfants, votre famille. Vous écrivez, Annie Desrochers, « L'ambition dévorante de mon grand-père me rejoint totalement ». De quelle façon?
Bien, la façon, en fait, de comprendre ce que c'est que l'engagement public, au fond. Et ça aussi, j'aurais aimé en parler avec mon grand-père, parce que ce qui le motivait, c'est un peu la question que j'ai, est-ce que c'est simplement le pouvoir ou si c'est vraiment le désir de réaliser quelque chose, cette espèce de bien collectif.
Ah oui.
C'est ça aussi l'espèce de question. Puis moi, je trouve qu'il n'y a peut-être pas de hasard dans le fait que moi, je fais pas de politique, là, j'ai pas de désir d'en faire non plus. Mais le métier que je fais, c'en est aussi un certainement d'engagement. Le service public, c'est important pour moi, puis je le comprends bien sûr. Donc, c'est pour ça que ça me rejoint, ce désir-là de faire sa place, de mon émission, j'apprécie beaucoup ce travail-là, de mettre les gens en contact avec des histoires, d'aider à donner des clés pour comprendre le monde dans lequel on se retrouve. C'est sûr que ça, je comprends ça totalement, puis j'en suis habitée. Mais en même temps, j'ai aussi vu dans la vie de mon père l'espèce de fissure que ça a pu créer. Et pour moi, j'ai bénéficié du fait que mon père ait réfléchi à ces questions-là puis ait choisi, lui, d'être un père présent pour mon frère et moi. Et en même temps, dans ma maternité aussi, de dire, j'ai malgré cette espèce de, disons, vie publique que j'ai, de jamais être étrangère à mes enfants, tu sais, de rester proche de ces petits êtres-là. C'est la plus belle chose dans ma vie. Mon plus grand accomplissement, c'est de les accompagner. Tu sais, j'aurais beau faire 1000 projets, mais ça reste vraiment ça, le sens premier pour moi, en tout cas.
Annie Desrochers, j'invite les gens à découvrir votre BD qui est passionnante, qui est enrichissante, qui est déchirante et qui est émouvante. Je l'ai lue en fin de semaine et à un moment donné, là, les larmes me sont venues aux yeux. Je vous dis bravo à vous et à Christian Quenelle. Et je rappelle que vous êtes l'animatrice du 15-18, l'émission du retour à la maison à Radio-Canada et autrice maintenant. Merci beaucoup, Annie.
Merci à vous, Hélène. Merci beaucoup.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Excuse-moi, pardon. Excuse-moi, j'aurais besoin d'une petite indication. Excuse-moi de te déranger. Je vérifie pour un particulier. We'll be right back.
écouter Comment de bord, Blood pareil.
On joint maintenant notre amie, chroniqueuse livre, Anne-Marie Aubin, qui a lu 3 livres qui traitent de difficultés d'apprentissage. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
On commence avec, c'est tout à fait charmant comme titre, Mini-Élise, Bienvenue dans ma tête.
Oui, un roman, qu'on pourrait dire un roman graphique d'Élise Gravel, paru chez Scholastic tout récemment. C'est 183 pages quand même. On dit, selon l'éditeur, que c'est pour les 8-12 ans. À vrai dire, c'est pour un très large public qui s'intéresse peut-être à cette différence qu'on peut avoir, qu'on appelle la neurodiversité. C'est, je dirais particulièrement le TDAH. Alors, Élise Gravel, qui se passe de présentation, est une jeune autrice, illustratrice surtout, née en 1977 à Montréal, qui a publié nombreux livres qui sont des succès. Comment elle rejoint les jeunes? Par des livres très colorés, avec tous des contours noirs, des typographies éclatantes, très expressives, qui rejoignent les jeunes dans sa curiosité, ses questions, son intérêt pour des choses aussi bizarres. Mais là, dans celui-ci, elle s'est retrouvée elle-même jeune adolescente qui débute son secondaire, et qui, elle, n'est pas comme tout le monde. Comment ça se fait que moi, je ne suis pas obsédée par les New Kids on the Block? Pourquoi moi, je n'arrive pas à dormir le soir? Pourquoi moi, je n'ai pas envie d'avoir un amoureux? Bon, et là, dans ces questions, évidemment, elle fait un journal intime qui commence en 1991 et où elle parle de tous ces problèmes-là, puis aussi de ses amis, puis de, finalement de toutes sortes d'observations bizarres qui font sourire, mais aussi qui font qu'on parfois on peut se reconnaître si, comme elle, on est atteint de ce trouble-là. Elle confie à la toute fin du livre que c'est à 35 ans qu'elle a eu un diagnostic de TDAH. Ben, c'est un problème qui n'était pas identifié vraiment, surtout pas chez les filles. Donc, elle fait ce livre-là un petit peu pour aider les gens qui auraient ce trouble-là, mais aussi pour tous ceux qui les entourent, qui vivent avec eux, qui sont dans la classe, qui sont les éducateurs, les parents, la famille. Donc, dans son journal, elle écrit, elle fait des dessins sur toutes ses émotions, ses humeurs, et elle donne même des petits trucs pour gérer l'anxiété. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, mais autrefois, dans ces années-là, il y avait une revue d'ados qui s'appelait « Filles d'aujourd'hui ».
Oh non, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Mais non. Ça nous a marqué, hein, une certaine génération, là.
Exactement. Puis là, ben, il y avait souvent des tests pour voir si c'était comme ci, si c'était comme ça. Puis il y a un test pour voir si on fait de l'anxiété. Alors, elle nous met les affirmations, puis elle coche toutes les cases. Elle dit « Bon, je crois bien que je suis anxieuse. » Et parmi les conseils qu'on donne dans la revue, ben, c'est d'écouter de la musique douce, prendre des grandes inspirations, boire une tisane, prendre un bain chaud. Puis ça, c'est tout expliqué avec des petits dessins. Donc, c'est intéressant.
Le son n'est pas très bon, Anne-Marie. Je m'excuse, là, encore une fois. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, vous déplacer près d'une fenêtre?
C'est mieux. Ah oui, je vais me mettre peut-être près d'une fenêtre. J'ai changé de place croyant que c'était mieux.
Ouais, mais vraiment, ça fait 2 semaines là, qu'on a de la difficulté, mais on fait notre possible. Alors, continuez.
Alors donc, elle va nous donner des conseils. Et puis, ça fait ça suite à un album pour plus jeunes qui s'appelle « C'est mon cerveau », paru il y a un an, où elle explique finalement c'est quoi un cerveau, comment ça se développe, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement accepter ses différences et accepter les autres, consulter un médecin, un thérapeute, un enseignant ou un parent. Donc ça, c'est la partie, je dirais, du TDAH qu'on peut apprivoiser, mieux connaître grâce à 2 albums, un album et un roman de Élise Gravel.
Alors, ça s'intitule « Mini-Élise, bienvenue dans ma tête » aux éditions Scholastic. Et puis l'autre, « C'est mon cerveau »
Oui, toujours chez Scholastic, mais un petit album de 48 pages, beaucoup plus court, beaucoup plus illustré.
Et vous continuez avec un livre qui est sorti quand même il y a quelques années, un de mes grands coups de cœur, « Ma maison tête ». Je me souviens, j'avais fait une entrevue avec lui, « Vig ».
C'est vraiment particulier. C'est quelqu'un qui a lui-même souffert de ce problème aussi et qui s'est servi de son expérience, de son enfance, parce que quelqu'un qui a beaucoup voyagé et tous les déménagements que sa famille a vécu, parce qu'il dit qu'il est né à Ottawa, mais il a vécu au Pakistan, en France, au Maroc, en Côte d'Ivoire, en Haïti, puis en Suisse. Alors, donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, il s'est installé à Saint-Denis-sur-Richelieu, à Montérégie, et il travaille avec, je dirais, c'est un autodidacte qui vit de son art, qui est illustrateur. Et dans ce livre-là, ben, il a voulu expliquer un peu c'était quoi son problème à lui, sa difficulté d'apprentissage due à l'anxiété de performance. C'est quelqu'un qui, par exemple, dans l'histoire, le petit garçon s'appelle comme lui, Vincent, et puis il doit réciter une fable de La Fontaine. Et puis, ben là, au moment de la réciter, c'est le black, rien, le noir. Toute la classe rit, lui, il est en larmes. Et puis, ben là, ben, il dit que dans ce temps-là, quand ça y arrive, il s'en va dans sa maison-tête. Et sa maison est dans sa tête. Et il y a des pièces, comme dans une maison, et il nous fait visiter cette maison-là. On passe d'une pièce à l'autre pour comprendre où il peut se réfugier quand cela arrive. Exemple, la chambre noire pour dormir, ben il la cherche, souvent il la trouve pas. La chambre lumière, c'est là où il est bien, où il se sent intelligent, il va faire de l'art, il va dessiner. Le lunarium, c'est là où il s'évade quand il n'en peut plus à l'école, mais aussi parfois dans ses nuits blanches où il n'arrive pas à dormir.
Le lunarium, c'est étrange.
Oui, le lunarium. Puis la chute à mots durs, c'est comme une chute à linge, là, où il essaie de balancer les choses qu'il a reçues dans la journée, les choses rudes, mais on ne se vide jamais tout à fait la tête. Donc, c'est intéressant, cette façon de nous montrer qu'est-ce qui se passe dans sa tête, comme dans une visite guidée de sa maison-tête. Et les illustrations nous permettent aussi, par les couleurs, par les petits points, par la typographie, de comprendre l'intensité de ses émotions et comment l'anxiété prend toute la place et l'empêche de réfléchir. Et Dieu sait que ce problème est très répandu chez nos jeunes. Mais ce qui est heureux, c'est que finalement, on comprend que c'est temporaire et qu'avec le temps, on trouve une manière de vivre avec ça. Et puis, c'est une œuvre accessible, facile à lire, pleine de sensibilité, qui s'est mérité beaucoup de prix d'ailleurs, et qui traite sur le droit à cette différence et le respect de ces personnes atteintes de ce trouble.
Ma maison tête par Vig, écrit et illustré par Vig, et c'est publié aux éditions Fonfon. Et vous terminez avec un livre de Marie-France Hébert qui s'intitule « Je te vois ».
C'est Marie-Francine, en fait.
Marie-Francine.
Oui. Une personne qui est parmi les pionnières en littérature jeunesse, qui a créé les premiers albums à la courte échelle il y a plusieurs années déjà.
Ah oui, elle est dans le paysage de la littérature jeunesse depuis au moins 3 décennies.
Ah oui, puis ce livre qui est un album est paru aux 400 coups. C'est 32 pages, c'est pas long. C'est illustré par Laurent Cantric, qui est une jeune illustratrice née en Bretagne, dans le Finistère, et qui vit sans doute au Québec maintenant, en tout cas qui a fait des stages ici. Et puis, elle utilise des papiers de soie collés pour faire des tonalités très douces dans l'album qui traite d'un sujet plutôt grave. Alors, c'est l'histoire d'un couple qui entre dans un restaurant et la femme qui parle au jeu s'adresse au-dessus à un enfant qui est là, une petite fille. Et rapidement, elle est obsédée par cet enfant qui est dans le restaurant. Elle est assise à une table face à un adulte qui est probablement sa mère, et la mère est sur son téléphone cellulaire. Les deux ne se parlent pas, et là, ben, la jeune femme qui est en couple et puis qui mange une pizza, qui a le temps de tout manger son repas, a le temps d'observer, et son conjoint aussi observe la petite fille en question qui a l'air de souffrir, et puis elle va lui parler au-dessus à cet enfant-là. Alors, je vous donne par exemple la première phrase. « J'entre dans le restaurant avec mon amoureux et je te vois parmi les autres clients. Pourquoi toi? Tu es assise dos au mur, ton visage d'enfant fixé sur l'adulte assise en face de toi, de l'autre côté de la table. » Alors, on voit le décor, c'est très bien illustré, la distance physique est sensible aussi qu'il peut y avoir entre les deux, cette solitude-là qui prend toute la place. Et puis ils ont le temps de manger, puis elle dit « Tu es prête à partir et tu attends que ta mère s'en rende compte et range son téléphone. » Alors, on peut, en première lecture, dire c'est un livre sur, finalement, l'excès d'utilisation du cellulaire dans une relation mère-fille, mère-enfant, mais aussi sur la solitude de cet enfant avec un adulte qui ne l'écoute pas, qui ne la voit même pas. Et aussi l'empathie de l'adulte qui entre là puis qui est happé par cet enfant qu'elle observe tout le temps. Et elle dit, une fois rendue chez elle, qu'elle a reconnu ce qu'elle était dans cet enfant-là. Parce qu'elle aussi, sa mère, bien avant l'invention des cellulaires, a été absente pour elle. Comme quoi, c'est pas juste le problème du téléphone qui est dans ce livre-là. C'est très beau, c'est très touchant. Elle dit qu'elle lit dans l'écran des yeux de la jeune fille que finalement, qu'elle lance un message, mais qu'elle ne sait pas à qui l'envoyer. Et quand elle sort, parce qu'ils ont fini de manger leur pizza, puis ils ont fini leur repas, puis l'enfant est toujours là, elle croit voir dans l'écran du cellulaire de la mère le mot « seul ». Donc, la solitude, finalement, qui prend toute la place. C'est un magnifique album de Marie-Francine Hébert qui raconte une histoire sensible sur ce sentiment de rejet que la jeune fille ressent, puis souffre, et puis l'incompréhension de cette maman qui est complètement, sans doute, prise par un problème qui est très lourd sur ses épaules. Et puis, ça témoigne d'une douleur qui est invisible, mais qui est là, qui est présente, et dans laquelle la femme témoin a reconnu quelque chose de son passé. Puis elle dit que c'est une fois chez elle qu'elle a compris pourquoi cet enfant-là l'avait happé. Et la dernière phrase du livre, je vous la lire, même si on ne dit pas habituellement, elle dit « Maintenant que je suis grande », ça c'est la maman, qui parle, pas la maman, mais la personne témoin, elle dit « Maintenant que je suis grande, j'écris pour que les enfants comme toi se sentent moins seuls. » Magnifique, hein?
Oui.
Vraiment.
Je te vois, c'est une œuvre de Marie-Francine Hébert et de Laurane Cantric, publiée aux éditions Les 400 coups. C'est Anne-Marie Aubin qui nous en parlait. Merci beaucoup, Anne-Marie.
Au revoir et à la semaine
prochaine. c'est la chanson que j'ai eue en tête dès que j'ai appris la mort de Robert Redford, l'enfant chéri d'Hollywood, devenu réalisateur oscarisé, militant progressiste et parrain du cinéma indépendant, est mort aujourd'hui à l'âge de 89 ans. Robert Redford est mort à son domicile de Sundance, dans les montagnes de l'Utah, l'endroit qu'il aimait, entouré de ceux qu'il aimait, a déclaré l'attachée de presse Cindy Berger dans un communiqué. Aucune cause de décès n'a été divulguée. Après avoir connu la gloire dans les années 1960, Redford fut l'une des plus grandes vedettes des années 1970. Avec des films tels que, je vais vous donner les titres en français, Les Hommes du Président, de Oui, We Were, justement, Nos plus belles années, aux côtés de Barbara Streisand. En 1980, il a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur pour Ordinary People, Des gens comme les autres, qui a également été sacré meilleur film par l'Académie. Ses cheveux blonds, ondulés, son sourire juvénile en faisaient l'un des acteurs les plus convoités. Mais il s'efforçait de transcender son physique, que ce soit par son engagement politique, son acceptation de rôles peu prestigieux ou son dévouement à offrir une plateforme aux films à petit budget. Ses rôles allaient du journaliste du Washington Post, Bob Woodward, à un montagnard dans Jeremiah Johnson, en passant par un agent double dans l'univers cinématographique Marvel. Parmi ses partenaires à l'écran figuraient Jane Fonda, Meryl Streep, Tom Cruise, Barbara Streisand, mais son partenaire à l'écran le plus célèbre était son vieil ami Paul Newman, leur film étant une variante de leur relation chaleureuse et taquine hors écran. Redford a joué le hors-la-loi aux côtés de Newman dans Butch Cassidy and the Sundance Kid, un succès au box-office qui a donné son nom au Sundance Institute et au festival. Il a également fait équipe avec Paul Newman sur The Sting, l'arnaque, oscarisé du meilleur film en 1973, qui lui a valu une nomination pour l'Oscar du meilleur acteur dans le rôle d'un jeune escroc dans le Chicago des années 1930, une carrière impressionnante. Robert Redford, qui est né Charles Robert Redford Jr. le 18 août 1936 à Santa Monica. Sa belle bouille aux cheveux blonds parle de beauté insolente, lui a permis de réussir un apprentissage à la télévision et au théâtre qui l'a finalement conduit au grand écran. Donc Robert Redford, je vous le rappelle, est décédé. Il avait 89 ans. Promo Accès annonce que plusieurs nouvelles étiquettes vertes ont été collées chez les commerçants qui embarquent de plus en plus dans ce mouvement pour rendre l'accessibilité visible et claire. Les étiquettes vertes suscitent souvent la curiosité. Alors, voici un petit éclairage. Elles ont été créées par l'équipe des élus du Plateau Mont-Royal. Elles répondent à un besoin simple mais essentiel, indiquer clairement l'accessibilité d'un commerce. Au départ, certains commerçants ne sont pas toujours intéressés, doutent un petit peu de leur utilité, mais après quelques minutes d'échange, ils comprennent. Cette étiquette permet de voir en un coup d'œil si le commerce est accessible. Les infos sont claires et essentielles. Entrée, circulation, toilette. C'est pratique à consulter aussi bien pour la clientèle que pour les employés. C'est rapide aussi. En plus, c'est un signe de ralliement. Chaque étiquette collée, c'est un commerce de plus que rejoint un mouvement commun pour rendre nos rues plus inclusives. La communauté souvent soutient massivement cette initiative parce qu'elle répond à un besoin et leur permet de se sentir inclus. De notre côté, on est heureux et motivés et prêts à en coller encore plus partout au Québec, affirme Promo Accès, qui remercie toute l'équipe du Plateau Mont-Royal de leur collaboration. Les cotes d'écoute en hausse pour les Gémeaux. Les téléspectateurs ont été légèrement plus nombreux dimanche soir à suivre le gala des prix Gémeaux que l'an dernier. C'est dans la presse qu'on en parle notamment. Sous la plume d'Étienne Paré, d'une durée de plus de 2h15, cette 40e cérémonie des Gémeaux a rassemblé en moyenne 859 000 personnes sur ICI Télé. Cette audience représente 41 % des francophones qui écoutaient la télé dans ce créneau. Il s'agit de la meilleure part de marché enregistrée au cours des 5 dernières années pour la plus grande fête de la télévision québécoise. Bonne nouvelle dans le milieu de la littérature, la traduction anglaise de « Faire les sucres », prix littéraire du gouverneur général en 2021, a été retenue parmi les 14 titres de la longue liste du prestigieux prix Giller, ce deuxième roman de Fanny Britt qui sera adapté au grand écran par Léa Clermont-Dion. C'est démarqué parmi plus d'une centaine de titres publiés d'un océan à l'autre. La version anglaise « Sugaring Off » a été traduite par Susan Oriou chez Book Hog Press. Il s'agit par ailleurs de la seule traduction sélectionnée cette année. Parue en 2020 au Cheval Doux, « Faire les sucres » explore la question du succès, des privilèges, du confort et du bonheur à travers l'histoire d'un couple, d'une jeune fille qui vit à Martha's Vineyard au Massachusetts, d'une famille propriétaire d'une érablière à Oka, ainsi que d'un chef de chorale anglophone à Hudson. L'an dernier, Éric Chacour s'était également retrouvé en lice pour le prix avec la version anglaise du roman « Ce que je sais de toi », suivant les traces d'autres auteurs comme Kim Thuy, Éric Dupont et Catherine Leroux. La liste des finalistes sera dévoilée le 6 octobre et le prix sera décerné le 17 novembre lors d'une cérémonie à Toronto qui sera retransmise sur les ondes de CBC. Et parlant de prix, les artistes québécois Lou, Adrianne Cassidy, BB Club et Population 2 font partie des artistes qui sont en lice pour le prix de musique Polaris qui sera remis ce soir. Cassidy est en nomination pour son troisième album Journal d'un loup-garou, sorti plus tôt cette année. Le duo électropop BB Club, formé par Nicolas Basque et Adèle Trottier-Rivard, est quant à lui en lice pour Feu de garde, son deuxième album. Quant au groupe rock psychédélique Population 2, il pourrait remporter le prix pour son troisième album Maintenant ou jamais. La formation composée de Pierre-Luc Graton, Tristan Lacombe et Sébastien Provençal avait reçu l'an dernier deux prix au Gala alternatif de la musique indépendante du Québec, le GAMIC, notamment pour l'album rock de l'année. Alors, on va suivre ça de très près. C'est ce soir que le gagnant ou la gagnante, enfin, l'album gagnant sera annoncé. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, demain. C'est sur cette musique que je vous dis au revoir et puis on va se retrouver demain, je l'espère bien, à compter de 9h30. Merci beaucoup à la mise en onde Samuel Badel pour votre beau travail. À la prochaine, Samuel. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été à l'écoute. Bonne journée. À demain.